Ah bon?
Bientôt 7 semaines. 7 semaines.
7 semaines.
Alors
bon,
on m'enlève les pansements demain.
Oui.
Mais ça m'a beaucoup fatiguée.
Bon, pour l'instant, je ne fais que contrôler le niveau.
Oui.
Là, oui. Je crois que ça va aller comme cela.
Oui.
Oui. Est-ce que je pourrais d'abord vous poser une question qui va vous faire sourire, madame, mais pour contrôler encore le
oui,
niveau.
Oui, bien sûr.
Comment est-ce qu'on fait une omelette chez vous?
Une omelette, eh bien, on casse d'abord les œufs dans un bol, dans une assiette. On met tous les assaisonnements, du poivre, du sel, de l'estragon. Ensuite, on met chauffer le beurre, enfin une matière grasse quelconque. On bat les œufs, ensuite on met les œufs dans la poêle, et de temps à autre, eh bien, avec une fourchette, on remue sans trop abîmer l'omelette. Alors, paraît-il qu'en France, on fait des omelettes succulentes.
Oui.
Vous en avez qui aiment l'omelette très cuite. À mon avis, ce n'est pas très fameux, mais une omelette onctueuse est bien meilleure.
Ah oui, qu'est-ce que ça veut dire onctueux?
Onctueux, ça veut dire les œufs pas très cuits.
Oui.
Tout en étant bien mélangés, une omelette qui reste un petit peu souple.
Ah oui.
Alors là, vous relevez d'un côté, et quand l'omelette est cuite à point, paraît-il que c'est très bon.
Ah.
Et les étrangers qui viennent en France demandent toujours, paraît-il, une bonne omelette à la française.
C'est ça, oui, bien sûr.
C'est vrai?
Oui.
Voilà.
Oui. Alors, je pense que nous pouvons commencer maintenant les questions que j'avais préparées.
C'est ça.
Alors, je demande à l'un ou à l'autre,
oui,
depuis
oui,
combien
oui,
de temps vous êtes à Orléans? Alors, madame, peut-être d'abord.
Oui. Eh bien, nous sommes à Orléans depuis combien environ?
Depuis 1965, nous sommes revenus.
65, mais... après une petite période d'absence de 16 ans. Monsieur ayant été nommé à Paris inspecteur, a fait une petite disparition de 16 ans, qui est même un bon bail. Ensuite, nous sommes revenus depuis quelques années.
Oui.
Et ensuite, nous allons repartir dans une autre région.
Ah oui, vous n'allez pas rester ici?
Non, nous n'allons pas rester parce que nous ne sommes pas habitués à l'appartement.
Ah
nous
oui.
sommes non. habitués à être seuls dans un pavillon. Alors on trouve que de vivre en communauté, c'est trop dur.
Ah oui?
Nous n'aimons pas la communauté. Nous n'aimons pas, nous ne sommes pas des sauvages, mais nous n'aimons pas vivre en communauté. Nous aimons le pavillon, vivre seul et en sorte de faire ce que l'on veut, quoi.
Ah oui. Et où est-ce que vous comptez aller alors, monsieur?
Eh bien, nous comptons aller à une cinquantaine de kilomètres d'Orléans, entre Blois et Orléans.
Ah oui?
Oui.
Tout près alors?
Oui.
C'est que la région vous plaît ou...
La région nous plaît.
La région nous plaît.
En plus, pourquoi nous avons décidé d'aller dans ce pays, c'est notamment parce que c'est mon pays de...
D'origine.
Ah oui.
C'est ça.
Ah oui, vous tenez beaucoup à rester dans votre pays natal alors.
Oui. C'est ça, oui.
Ah oui.
Oui.
Et nous avons fait bâtir une maison.
Ah bon?
Oui, de
c'est
nouveau.
Déjà fait.
Oui,
la maison
c'est
déjà faite,
elle nous attend.
On espère cette année pouvoir s'y rendre après avoir vendu l'appartement que nous occupons dans cette résidence.
Tant mieux. Tant
voilà.
Mieux. Est-ce qu'il y a beaucoup de cérémonies ou de règlements concernant bâtir une maison en France?
Ah, pour bâtir une maison?
Oui, pour faire bâtir une maison.
Écoutez, la raison principale pour bâtir une maison en France, dans n'importe quelle région que ce soit, c'est qu'il faut avoir un terrain.
Oui.
N'est-ce pas? Un terrain d'une superficie variable suivant la grandeur de la localité. En général, la superficie est d'autant plus petite que la ville choisie est plus grande. C'est bien évident,
oui.
Pour le prix
oui.
des terrains.
Oui.
Et alors, il vous faut naturellement, quand vous êtes en possession d'un terrain, il vous faut faire une demande de permis de construire, et soit avoir les capitaux ou vous procurer ces capitaux par l'intermédiaire de banques ou d'organismes prêteurs si vous n'avez pas les capitaux, bien entendu. Et ces capitaux sont remboursables en général dans une période de 10 à 20 ans au maximum.
10 à 20 ans au maximum.
C'est ça.
Ah oui. Ah oui. Est-ce que vous avez trouvé facile de trouver votre terrain et...
Ah ben, pour moi, la question ne s'est pas posée parce que le terrain m'appartenait.
Ah oui.
N'est-ce pas ? C'était un terrain que j'avais hérité de mon grand-père.
Ah, oui. Très bien.
C'est ça.
Ah oui.
Alors, de ce fait, je n'avais donc pas envisagé un achat de terrain.
Est-ce qu'il y a des difficultés pour obtenir la permission de construire ? Le permis de construire ?
Non, plus maintenant, non, plus maintenant. Et au contraire, maintenant, l'obtention du permis de construire est réduite à peu près à un mois.
Ah oui ?
Oui.
Ah oui.
Alors, je ne sais pas si...
Oh oui, c'est très intéressant cela.
En Angleterre, est-ce que c'est plus difficile de...
Oui, le permis de construire est beaucoup plus difficile à obtenir.
Et plus long peut-être aussi
oui. Quelquefois, oui, beaucoup plus long. Parce que le permis de construire, c'est entre. Comment est-ce qu'on dit ? Entre les mains de la municipalité. C'est la municipalité qui donne le permis de construire.
C'est ça, ouais.
Et puis ça dépend de la ville, ça dépend de la densité de population de la ville. Et l'Angleterre est beaucoup plus densément.
Oui.
Peuplé que la oui. France. Alors, que c'est beaucoup plus difficile.
Il faut compter combien de temps en Angleterre alors pour obtenir un permis de construire ?
Oh, je ne sais pas. Moi, je connais une personne qui a dû attendre 3 mois.
C'est ça, oui. Eh bien, 3 mois, c'était le temps qu'il fallait avant la réduction dernière de la durée d'obtention du permis que je vous dis qui est maintenant voisine d'un mois.
Ah oui.
En France. Mais avant, c'était environ la même chose que chez vous.
Ah oui.
Voilà.
Oui. Alors, vous dites, on vous a nommé à Paris.
J'ai été nommé en avancement où, dans les postes des télécommunications oui. comme inspecteur central.
Oui. Est-ce que lorsqu'on vous nomme comme cela à Paris, est-ce qu'il vous faut aller? Ou est-ce que vous pouvez demander d'aller dans une autre ville?
Ah non. Lorsque l'administration vous offre un emploi d'avancement, elle vous l'offre dans un certain nombre de résidences.
Oui, vous avez eu même à choisir.
J'ai eu plusieurs résidences à choisir.
Ah oui.
Et alors, vous voyez, vous choisissez parmi les quelques résidences que vous avez, alors vous faites votre choix. Il faut bien opter ou alors... Vous n'acceptez rien et vous perdez l'emploi d'avancement.
Oui, ah oui. Est-ce qu'on demande cet emploi d'avancement ou est-ce qu'on attend à être nommé?
Non. L'emploi d'avancement dans l'administration des PTT suit une carrière et une notation continuelle de l'agent en question. Et des notes qui sont données par les chefs de service, mais ça n'est pas automatique.
Ah oui, ah oui. Alors un jour on vous le dit, un jour on vous écrit peut-être et on vous dit, monsieur...
Vous avez chaque année des notes,
oui.
des notes sur une feuille de carrière, et qui vous permettent d'apprécier si vous avez des chances d'avoir un emploi d'avancement dans les années futures, mais... Il se passe un certain nombre d'années avant d'obtenir des grades supérieurs. Et je suppose qu'en Angleterre, ça doit être quelque chose de similaire.
Oui, sans doute, mais je ne sais pas beaucoup quels sont, enfin, en détail, comment les avancements se font dans l'administration en Angleterre. Oui. Alors, est-ce que vous avez été heureuse d'aller à Paris ?
Oui, d'autant plus que nous nous sommes mariés à Paris et...
Ah, oui.
Je travaillais à Paris, alors pour moi, le problème ne se posait pas.
Ah oui.
Oui.
Quel genre de travail est-ce que vous faisiez à Paris?
Eh bien, le travail que je faisais à Paris, j'étais employée de commerce dans un grand magasin.
du boulevard Sébastopol.
Boulevard Sébastopol, dont la maison existe toujours, la maison Charpentier. Et comme je connaissais mon mari depuis de nombreuses années, eh bien nous nous sommes mariés à Paris et nous sommes venus en province après. Bon, ça nous a un petit peu changé, mais pas tellement. Et puis Orléans, Fontainebleau, Chartres. Ensuite, nous sommes revenus à Orléans, nous sommes partis à Clamart. Vous voyez, nous avons beaucoup voyagé.
Ah oui.
Et pour notre retraite, nous avons préféré Orléans, croyant tout de même que l'appartement nous suffirait. Mais on s'est aperçu un peu tard que l'appartement ne nous convenait pas du tout. C'est pourquoi maintenant nous préférons retourner dans une petite ville de province pour avoir notre chez nous.
Ah oui.
Et la tranquillité.
Parce que nous nous trouvons tout de même que tout en étant chez soi ici, on n'est pas chez soi. La communauté pour nous ne nous convient pas du tout.
Ah non. Il y a du bruit peut-être.
Il y a surtout.
Non.
C'est-à-dire
qu'il n'y a. Non, on peut pas.
Il y a une 120 enfants.
Oui, nous trouvons que tout de même.
Ouais. Ça n'est pas fait
les pour enfants, les enfants.
Pour des gens âgés comme nous, ouais. Tout de même pour la tranquillité.
Ah non.
Parce que ouais. Les enfants font du bruit. Oui.
Détériorent pas mal de choses auxquelles on est obligé tout de même, nous qui n'avons plus d'enfants, de payer. Alors nous trouvons cela un peu dur.
Ah oui.
Oui.
Ah oui.
Nous trouvons ça un peu dur.
Pourtant, on n'entend presque rien d'ici.
Parce que c'est dimanche que les parents
ont sont sortis avec les enfants.
Mais sans quoi, c'est assez bruyant comme enfant.
Oui. Oui.
Et c'est surtout bruyant, c'est pendant les vacances où tous les enfants sont à la résidence. Vous comprenez bien.
Oui.
Sentis que quand, pendant les périodes scolaires, quand ils vont aux écoles, évidemment,
ça va. Ça n'est pas trop. Comme il y a beaucoup de vacances dans l'année scolaire, alors pour nous c'est trop turbulent.
Oui. Mais est-ce qu'il y a des magasins ou des boutiques, des magasins d'alimentation près d'ici?
Pas très loin. Oui. Puis nous sommes tout à côté de la ville tout de même.
Oui.
C'est ce qui est. Mais enfin, dans le quartier, nous sommes assez bien approvisionnés.
Ah bon?
Oui, c'est bon. Très parfait.
Et vous avez au moins un ascenseur?
Oui,
l'ascenseur.
Voyez-vous, nous avons pris
Vous l'avez pris, l'ascenseur.
Oui.
Nous avons pris le dernier étage pour ne pas avoir de gens au-dessus de nous.
Pour avoir la tranquillité au-dessus, déjà.
Parce que j'ai un de mes fils qui est assez bien placé, il est ingénieur. Il nous a dit, vous savez, vous qui n'aimez pas le bruit, vous qui aimez bien vos petits aises, eh bien, mon Dieu, il faut prendre le dernier étage. Là, vous n'entendrez absolument rien au-dessus de vous. Eh bien, nous en a pris, nous.
De ce côté-là, on est tranquille.
De ce côté-là, on est tranquille.
Oui, vous avez raison.
Oui, très bien.
Et vous êtes tous les deux en retraite maintenant.
Oui.
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 Alors, comment est-ce que vous passez vos journées maintenant?
Ah, écoutez,
nous lisons beaucoup.
Oui. Ah, oui.
Vous voyez, je m'en vais à la bibliothèque.
Nous avons une bibliothèque au PTT où nous avons des livres principalement pour nous, c'est l'histoire. C'est pas les romans pour nous, les livres d'histoire pour nous, c'est notre seule passion. Nous avons déjà.
Actuellement, on est en train de lire l'histoire de Catherine de Russie. Et ma femme, le roman des Trois Mousquetaires, d'Alexandre Dumas.
Le roman des Trois Mousquetaires, et puis Catherine de Russie.
Et je viens de lire.
C'est la première fois que vous ayez lu les Trois Mousquetaires?
Ah, c'est la première fois,
oui.
Et voyez,
c'est intéressant cela. Ah oui.
Ça nous intéresse, nous, les livres d'histoire, pour nous.
Oui, j'aime bien.
C'est très passionnant.
Pour moi aussi, oui.
Sur l'Angleterre, on en a lu pas mal.
Oui. Après déjeuner, nous lisons un peu.
Oui.
Mais mon mari, principalement, aime beaucoup marcher.
Ah oui.
Ah ça.
Alors, en dehors de ça, vous me demandez ce que je fais. Je suis, après avoir été président de la société du conseil d'administration, je suis resté administrateur de cette société. Parce que c'est une résidence de 100 appartements qui est régie par un conseil d'administration avec un président. Et alors, toutes ces fonctions sont honorifiques. Et alors, les présidents ne restent en général pas très longtemps parce que tout de même, ils sont dérangés par tout un tas de travaux et de réclamations des copropriétaires ou des locataires. Et alors, tandis qu'administrateur, on est tout de même plus tranquille. On se réunit quand le président nous le demande, quand il y a des affaires à débattre, quoi. Et alors, tandis que la principale responsabilité est celle du président. Et en général, les présidents se succèdent tous les ans ou tous les deux ans maximum.
Ah oui. Le président est choisi parmi les locataires ou les propriétaires?
Ah non. Seulement parmi les propriétaires.
Ah oui.
Les copropriétaires.
Ah oui. Alors, il y a dans ce bâtiment de ceux qui possèdent leur appartement et ceux qui le louent.
Oui, c'est ça. Il y a un certain nombre d'appartements, presque la moitié, qui ont été achetés par des gens qui les ont achetés pour les louer.
Ah oui.
N'est-ce pas?
Oui, je vois. Ouais.
Et alors, tandis qu'une la plus grande, plus de la moitié a été achetée par des gens qui l'habitent eux-mêmes.
Ah oui.
Voilà.
Ah oui. Alors, ça vous occupe. Et vous partez de votre temps, le travail d'administration.
Oui, c'est ça.
Moi, je trouve que pour un homme, c'est une bonne occupation.
Ah oui.
N'est-ce pas? En dehors de son travail quotidien, je trouve qu'il s'occupe un petit peu de la société, de ceci ou de cela. Je trouve que c'est un travail pour moi qui est bien.
Ah oui.
Au moins, on ne reste pas inactif, on ne reste pas ignorant de beaucoup de choses. Et puis, administrateur, ça nous permet tout de même d'avoir un peu le nez dans les affaires. Vous savez ce que c'est, vous avez des administrateurs qui sont pour dépenser sur ci, pour dépenser cela. Alors il faut tout de même que quelques-uns mettent un frein, comprenez-vous?
Il faut, comme on dit, faire des choix.
Vous avez beaucoup
dans les travaux
beaucoup de petites bourses, beaucoup de petits traitements, alors il ne faut tout de même pas envisager des travaux extraordinaires. Alors il faut moitié l'un, moitié l'autre, à mon idée.
Il faut savoir freiner tout de même des dépenses un peu somptuaires auxquelles les petites bourses des locataires ou propriétaires peu fortunés doivent faire face.
Ah oui.
Parce que quand on a pris la décision dans une résidence comme celle-là de faire une dépense, il est évident que la dépense est répartie sur tous les copropriétaires habitants ou les locataires de cette résidence, vous comprenez?
Et en quoi consistent généralement les travaux alors?
Les travaux d'entretien ou d'embellissement.
Ah oui.
Voilà.
Le peinture.
Oh, c'est souvent de la peinture qui sont
Les. Et puis, est-ce qu'il y a des jardins dehors?
Oui, on a des espaces verts aussi. On a des espaces verts, alors des espaces verts qui sont également aussi, qui sont coûteux à entretenir.
Oui. Ah oui. Et ce sont les locataires ou les propriétaires eux-mêmes qui entretiennent les pelouses?
Ah,
pas du
tout. Ah non.
Un jardinier.
Non, là, on a la résidence, on a embauché un couple de gardiens dont le mari est chargé de l'entretien des espaces verts à l'aide de machines à moteur qu'on lui a achetées. C'est lui qui est chargé de l'entretien des espaces verts. Et alors, lui et sa femme, en dehors, contribue à l'entretien des parties communes de la résidence, comme cela se fait également dans toutes les résidences.
Ah oui, je vois.
Voilà.
Alors, vous avez quand même une vie assez bien occupée.
Assez active.
Oui, très bien. Active, oui. Et vous aussi, madame?
On ne s'ennuie pas, et puis on fait des petits voyages à droite, à gauche, oui.
Alors, en dehors de ça, et évidemment, j'ai une voiture qui nous permet d'aller en vacances, où bel et bon nous semble, quand la belle saison est arrivée.
Oui. C'est quel modèle que vous avez comme voiture?
C'est une Renault R16, dont je suis très content d'ailleurs.
Ah oui. Et vous l'avez achetée récemment ou?
Ah oui, il y a 2 ans.
Qu'est-ce qui vous a fait choisir ce modèle?
Qu'est-ce qui m'a fait choisir ce modèle?
Oui.
Eh bien, c'est parce que j'ai trouvé que ce modèle était bien étudié et que c'était une traction avant qui faisait suite à une autre traction avant que j'avais, qui était une Dyna Ponrard, dont j'étais très content également.
Eh oui. Et est-ce que vous avez pris part à la décision, madame, pour la voiture?
Je vous dirais que monsieur ne prend jamais de décision seul.
Ah oui.
Quand il a pris une décision, il m'en fait part. Et en principe, je l'adopte toujours. Nous querellons jamais question de on veut ceci, on veut cela. Non, nous sommes à peu près toujours du même avis.
Oui.
Chose peut-être extraordinaire,
oui.
Enfin, on ne se contrarie jamais.
Oui.
C'est vrai, pour une chose ou pour une autre, aussi bien pour nos enfants, quand on veut aller les voir, etc. On se dit, tiens, si on allait à Poitiers, si on allait à Paris, eh bien si tu veux, voilà. Moi, je trouve que dans un ménage, d'ailleurs, il faut que ce soit comme ça, hein, parce qu'autrement, il n'y aurait plus de vie possible. N'est-ce pas, madame?
Oui. Alors, la voiture vous plaît aussi?
Oui.
Mais je reconnais pour les voitures que, par exemple, j'ai été influencé favorablement par les 1100 britanniques.
Ah oui.
Oui. On les connaît bien, les 1100 britanniques.
Oui.
Que ce soit les MG ou que ce soit les...
Les Austin.
L'Austin.
Ou Wall
Street. Il y en a, oui.
Il y en a plusieurs.
Oui, il y en a plusieurs. Attraction avant également.
Oui.
Et qui ça. Sont très confortables aussi.
Oui, ah oui, je trouve que généralement les voitures anglaises ne sont pas faites pour les routes françaises, mais celles-là,
oui.
Les 1100, paraissent
elles sont,
beaucoup
elles sont
plus
très bien d'ailleurs. On a pas mal d'exemplaires qui roulent à Orléans aussi bien que dans les autres villes.
Ah oui. Ah oui. Alors, une question peut-être un peu étrange pour vous, vu que vous organisez votre temps comme vous le voulez à peu près,
oui.
Mais s'il y avait 2 heures supplémentaires chaque jour, de temps tout à fait libre, qu'est-ce que vous en feriez?
À deux heures supplémentaires, oui. De libre?
Oui, 2 heures
eh bien,
supplémentaires de journée peut-être.
Ah oui, écoutez, à ce moment-là, il faut qu'on vous dise, c'est qu'en dehors de cet appartement, j'ai un petit jardin au bord de la Loire.
Un petit pied-à-terre.
Un petit pied-à-terre pour mes enfants, qui se compose de...
Deux pièces, une cuisine.
Ouais. Et avec un jardin d'agrément, où j'ai un gazon à entretenir et des rosiers. Alors quand j'ai 2 heures de libre, comme vous me le dites,
ouais,
je m'en vais dans mon jardin.
Nous allons dans notre petite
résidence. À côté de
la Loire. On taille, on rogne,
oui.
On se met au voilà. Soleil. Moi, je trouve qu'un jardin d'agrément comme nous avons, c'est tout à fait périple pour nous.
Alors, vous voyez, en plus de ça, le jardin que nous possédons auprès de la Loire nous permet l'été, quand nous étions plus jeunes, bien sûr, avec mes enfants, c'est de se préparer et d'aller se baigner en Loire. Voilà.
Nous partons dès le matin d'ici, oui. Et puis comme nous avons de quoi faire à manger, la voie se reposer,
nous passons de
toute
bonne...
la journée, on rentre vers 10, 11 heures du soir.
Oui.
Et on trouve que l'on a passé une bonne journée.
Voilà.
Ça nous change de notre appartement.
Oui. Voilà. Très agréable.
Très
c'est
agréable.
Ça.
On ne s'ennuie jamais.
Oui. Alors, je vais vous demander à vous deux maintenant. Si vous n'aviez pas suivi la profession, votre profession au PTT,
oui.
Qu'est-ce que vous auriez aimé faire?
Oh, de toute manière, parce que mon fils a suivi à peu près la même voie, j'ai un de mes fils qui a suivi la même voie que moi, si je n'étais pas allé au PTT, je serais resté dans une branche de l'électricité.
Ah oui.
Parce que l'électricité m'a toujours bien plu comme science.
Oui.
Et alors, il y a de nombreux débouchés dans l'électricité que l'on connaît bien quoi, aujourd'hui, de tout genre, quoi.
Oui.
Soit l'électricité industrielle qui comprend les grosses machines, quoi, les alternateurs, les dynamos, le transport de haute et de basse tension, ou alors l'électricité à haute fréquence qui concerne les télécommunications et puis la radio et la télévision.
Ah oui.
Alors, si je n'étais pas allé au PTT, j'aurais fait une carrière dans l'une de ces branches-là, mais je serais resté dans l'électricité.
Ah oui, ah oui. Mais c'est vrai que ça paraît être
Et
passionnant.
alors, je puis vous dire que j'ai dès le début, ou sorti de l'école, j'étais très jeune, dès 16 ans, j'étais dans l'électricité. Et alors, j'en ai aujourd'hui 69, vous voyez, 68 ans exactement. Et alors, vous voyez que de bonne heure, j'étais déjà, je travaillais dans l'électricité, ou j'apprenais l'électricité.
Mais ce que l'on sait sur l'électricité, ça a beaucoup changé, ça a beaucoup
Ah oui, je le
développé depuis ce
sais.
temps-là.
Et alors aujourd'hui, j'ai un fils qui est resté dans cette branche-là, puisqu'il est ingénieur à l'électricité et qu'il se plaît très bien dans cette partie de l'industrie.
Ah oui. Ah oui. Est-ce que vous...
Après avoir été ingénieur du métropolitain de Paris,
Ah
il a
oui.
préféré quitter le métropolitain de Paris pour des raisons d'appartement déjà. Il a préféré prendre une autre branche dans l'électricité de façon à résider en province. Parce que la vie de Paris
Ne convenait pas très bien.
lui convenait pas, ainsi qu'à sa femme.
Ah oui, c'est vrai qu'on dit aujourd'hui que la vie à Paris devient vraiment
Ah oui.
impossible de certains
Impossible.
points de vue.
Impossible.
C'est une vie vraiment à Paris aujourd'hui, une vie vraiment trépidante, qui n'est valable surtout que lorsqu'on est jeune.
Ah
Mais
oui.
dès qu'on commence à prendre de l'âge, il vaut mieux s'évader vers les campagnes.
Oui, enfin moi aussi je trouve, oui.
Oui.
Oui,
Oh oui.
les grandes distances à Paris à parcourir
Oh
chaque
oui.
jour. Oui.
D'ailleurs, dans les campagnes, on vit avec les saisons. On s'aperçoit de
Oui.
l'été parce que l'on est toujours dehors.
Oui.
L'hiver, évidemment, c'est peut-être pas très agréable, mais on peut tout de même se distraire avec la télévision ou autre. Ensuite, le printemps qui est si joli. Vous vivez avec les fleurs, les oiseaux. On vit avec les saisons. Tandis qu'en ville, on n'a pas le temps. On est absorbé par toutes sortes de choses. Et mon Dieu, on trouve que les saisons passent vite et on ne s'en aperçoit pas. Voilà.
Nous trouvons que la vie des villes, c'est une vie factice à côté de la vie des campagnes où vraiment la vie est naturelle. Je pense que c'est votre avis.
C'est mon avis, oui, parce que je
Aussi.
suis de la campagne moi-même.
Ah
Oh, oui.
oui.
Mais ce n'est pas la vie de tout le monde. Il y a des gens qui sont nés à Paris, par exemple, ou à Londres,
Et
qui ne
qui aime
voient pas,
bien,
ou qui aiment bien, qui ne
je le
voient pas
sais,
l'intérêt.
à Paris aussi, je le sais qu'il y a des
Oui.
Parisiens qui. Hein, comme Maurice Tatsu, là, c'est un vieux
Oui,
Parisien.
mais d'autre part, le jour,
Ça
par
ne
exemple.
l'empêche pas aujourd'hui de préférer Marne-la-Coquette où il habite.
Oui, qui est tout de même un peu retiré de
Voilà.
Paris. Hein.
Oui.
C'est vrai?
Mais enfin, il faut croire tout de même que les Parisiens n'apprécient pas très bien leur vie de Paris, puisque tous les week-ends s'en vont à la campagne. Donc ils apprécient la campagne.
Oui.
Ils restent à Paris parce que c'est leur
Parce
travail et
qu'ils
c'est leur.
y sont
Oui, ils
obligés.
sont
Le
obligés,
travail
c'est
les
leur vie.
appelle.
Sans quoi pour eux, dès qu'ils peuvent s'évader, eh bien, ils s'en évadent.
Et vous aussi, vous vous en évadiez
Oh, oui,
ouais. Lorsque vous étiez là, oui.
À Paris,
Ah oui.
on, non,
C'est-à-dire que
nous
nous.
en évadions pas parce que nous habitions Clamart.
Clamart,
Ah oui,
Et Clamart est
déjà
à 5 km et à
de
5 km
Paris.
de Paris et à côté du bois de Meudon. Alors nous n'avions pas nous
Nous
évader
avions.
parce que nous étions déjà
Et puis
à
nous
la
avions un
campagne.
pavillon.
Et
Ah oui.
nous avions un jardin. Nous avions planté une dizaine d'arbres fruitiers. Alors tout de même, nous étions tout de même chez nous, quoi,
Ah oui.
et à l'air en
Et
même
tout
temps.
étant
Nous étions à 200 mètres du bois.
c'est ça.
Pour nous, c'était la campagne.
Ah oui.
Oui.
Et est-ce que vous montiez souvent à Paris, dans la ville même?
Quand nous étions à Paris?
Oui. Est-ce que vous montiez au.
Oui, trois ou quatre
Est-ce
fois par semaine, tout de
Ah
même,
oui.
parce que je faisais tous mes achats à Paris, et puis j'aimais les grands magasins,
Ah oui.
mais
Oui.
Et si vous n'aviez pas suivi la profession que vous avez suivie, qu'est-ce que vous auriez aimé faire?
Moi, oui. Moi-même, oui. Ah, ce que j'aurais aimé faire. Infirmière.
Infirmière?
Ah.
Oui, pourquoi?
Là, j'aurais aimé être infirmière, d'ailleurs, parce que je suis très dévouée. Je suis sensible à la douleur des autres. Et voyez-vous, pendant la guerre, j'ai passé mon secourisme. Je faisais partie des équipes d'urgence. Et j'étais affectée à un poste de secours. Et je faisais mon travail, non pas avec joie, mais je faisais mon travail avec dévouement, bénévolement. Parce que je me disais, nos soldats donnent leur sang, moi je donne mon temps. Et cette profession m'a toujours plu. J'allais faire des remplacements d'infirmières quand elles voulaient prendre un petit peu de repos. J'aime ce métier. Si j'avais eu une petite fille, je l'aurais encouragée à être infirmière. Pour moi, il n'y a pas plus belle profession que infirmière pour une femme, à mon avis. N'est-ce pas?
Très bien. Alors, les femmes mariées qui travaillent, c'est tout à fait naturel pour vous.
Les femmes qui travaillent, je trouve ça naturel, oui, parce qu'il faut tellement d'argent pour vivre, qu'aujourd'hui, une femme qui ne travaille pas, eh bien, l'intérieur, tout de même, la vie quotidienne s'en ressent. Il y a moins d'argent, il y a moins... Moi, je trouve qu'une femme, tout de même, quand elle n'a un ou deux enfants, elle doit travailler au dehors. D'abord.
Ou alors, à moins que le mari...
À moins que le mari gagne suffisamment. De quoi, voyez-vous, moi,
excellent.
J'ai ma belle-fille qui était professeure. Et...
Mon fils est ingénieur.
Mon fils étant ingénieur, eh bien...
Elle a abandonné
son métier parce qu'il rentrait suffisamment d'argent. Et mon Dieu, elle ne s'en plaint pas aujourd'hui parce qu'elle a son travail d'intérieur qui lui absorbe beaucoup de temps. Et puis.
Et puis aujourd'hui, ils ont un fils qui
ils a ont un 7 petit
ans.
Qui a été ça très difficile.
Lui permet de le préparer pour ses études.
Oui.
N'est-ce pas?
Oui. Et vous, monsieur, vous approuvez? Que les femmes mariées travaillent aussi?
Ah.
Je sais bien que je préférerais que les femmes mariées ne travaillent pas, mais la condition principale étant celle qu'il faudrait que le mari, tous les maris à tous les échelons, gagnent assez pour permettre au ménage de ne pas péricliter. Oui.
Quel est l'avantage que vous voyez à ce que les femmes ne travaillent pas? Enfin, quel avantage est-ce que vous voyez à ce que votre femme, par exemple, n'ait pas à travailler?
Ma femme est présente à tous les instants.
Oui.
Et alors, il est évident que la vie est moins monotone quand on a sa femme avec soi, au lieu que si votre femme va à l'extérieur travailler, elle n'est présente qu'au repas ou la nuit.
Et puis alors ça lui permet d'autre part de trouver une maison assez propre en arrivant, les repas sont prêts. Alors moi j'estime que pour un homme tout de même ça compte.
Il serait souhaitable que les femmes restent au foyer pour élever les enfants, d'accord, mais enfin pour toujours revenir à la même raison, il faudrait que les hommes chef de ménage gagne tous suffisamment dans la hiérarchie pour permettre à leur femme de rester à la maison.
Oui, bien sûr.
Et alors je pense que cette question-là, ça ne se pose pas qu'à notre pays, elle se pose aux autres pays pareil.
Oui.
Pour ne pas dévaloriser un pays par rapport aux autres.
Ah oui. En Angleterre, la question se pose, oui. Et elle se pose aussi du point de vue de l'égalité de la femme avec l'homme, vous voyez, c'est pourquoi je me suis demandé si, si les attitudes étaient les mêmes en France. On pense beaucoup au problème de l'égalité de la femme du point de vue légal, du point de vue de tous les points de vue.
Chez nous aussi, on a fait beaucoup de progrès dans ce sens-là, et alors presque toutes les carrières des hommes sont ouvertes aux femmes. Vous avez des femmes ingénieurs chimistes, Vous avez des professeurs féminins masculins,
oui.
Des inspecteurs ou inspectrices oui. dans tous les corps de l'État.
Oui.
Vous avez des femmes parlementaires. Tout
vous
à l'heure, j'ai entendu deux femmes parlementaires à l'ORTF, qui l'une est...
Et pour le oui, l'autre est pour
et
le
l'autre
non.
Pour le
ah,
non.
Oui. Ah, oui,
vous les avez peut-être
cela.
Entendues.
Non,
Marie...
j'ai entendu, mais j'avais... En fait, je savais qu'ils allaient parler.
Oui, alors oui. l'une
c'est
est...
intéressant d'entendre...
Oui.
C'est ça. Toutes oui. deux anciens ministres.
Oui.
L'une en activité et l'autre ancien ministre.
Ah oui. oui. Mais il y a très peu de femmes parlementaires.
Ah oui,
en France,
oui. c'est regrettable. D'ailleurs, elle l'a regretté tout à l'heure, toutes deux.
Ah oui.
oui.
Et quelle raison voyez-vous à cela, qu'il y ait très peu de femmes parlementaires?
Moi, mon point de vue, il en faudrait davantage.
Ben oui, mais c'est bien ce qu'elle disait tout à l'heure, toutes deux. Il faudrait que les femmes françaises se lancent plus qu'elles le font dans la politique, soit dans la politique communale ou... la députation, ou, n'est-ce pas, dans les partis politiques.
Ça vous tenterait, mais... de... ça vous tenterait vous-même de faire de la politique?
Nous,
de
vous, entre nous, nous en
mais...
un peu.
Ah,
nous
oui.
aimons beaucoup parler politique, on s'intéresse beaucoup
mais
à
ma...
la vie ma... politique de notre pays.
Ma femme a été assistante, comment
sociale. D'ailleurs, la clavage était portée sur une liste électorale, et... j'ai resté par la suite au sein de mon groupe auquel je faisais partie. Je leur ai rendu beaucoup service, bénévolement et
au
bien entendu.
Au point de vue social.
Au point de vue social. Et j'aurais aimé ça, voyez-vous. J'ai eu un frère qui a été pendant au moins 30 ans conseiller municipal, en ancien combattant, et c'est lui qui représentait toutes les commissions, etc. Et paraît-il que je tiens de mon frère parce que j'aime m'occuper de politique.
Ah oui.
Oui, je ne... avec mon mari, nous en parlons presque tous les jours. Nous écoutons la radio et on fait le pour et le contre.
Ah oui.
Nous aimons beaucoup ça.
Ah oui, ça
et on regrette de ce côté-là que les femmes ne s'occupent pas,
oui.
les femmes françaises ne s'occupent pas plus de politique.
Mmh. Ah oui, vraiment.
Ah oui.
Lorsque vous votez pour un député, qu'est-ce que vous attendez de lui?
D'abord qu'il tienne ses promesses.
Mmh.
Puisque un candidat député a une profession de foi dont il envoie un résumé à tous ses électeurs. Alors je crois que la principale qualité d'un député lorsqu'il est élu, autant que faire se peut, c'est de tenir les promesses qu'il a faites à ses électeurs.
Mm-hmm. Oui.
C'est peut-être pas toujours possible, c'est évident.
Oui.
Il dépend du groupe politique auquel il a été élu et il doit en suivre les directives.
Oui.
Au Parlement.
Oui, bien sûr. Et vous, madame, puisque vous attendez?
Et la même chose.
La même chose.
La même chose, oui.
Et que représente surtout un député? Je ne sais pas si je pose bien la question. Quels sont les devoirs d'un député vis-à-vis de ses électeurs, vis-à-vis de la circonscription? Je ne veux pas dire, enfin, le point de vue légal, mais est-ce qu'on s'attend à ce que le député... parle au nom de la communauté, de la circonscription, ou est-ce qu'on s'attend à ce qu'il se lie à un groupe politique, et c'est vraiment pour le groupe politique qu'on vote?
Ah, c'est vrai.
Ah, oui.
Elle me semble tout de même que c'est pour le groupe politique.
Souvent,
ah, oui.
Bon, oui.
Ouais.
Pour les élections de députés, oui. Les députés français en général sont élus pour le groupe politique auquel ils appartiennent.
Ah oui.
Si le groupe UNR a ses députés, actuellement c'est le groupe majoritaire,
oui.
le groupe du centre, les socialistes et les communistes, les quatre principaux groupes de notre pays, c'est pour cela.
Oui.
N'est-ce pas? Et alors il est évident que les Français, quand ils élisent un député communiste, ils savent bien que la politique qui en découle, aussi bien que lorsqu'un Français vote pour un député lyonnais ou UDR, dont le chef est Général de Gaulle, quoi, ils savent bien la politique qui découle de l'un ou l'autre député qu'ils éliront. Alors quand les Français choisissent leurs députés, en même temps ils choisissent la couleur politique de leur étiquette.
Ah oui. Vous avez dit quatre groupes principaux maintenant.
Quatre groupes principaux, oui.
Il y en avait beaucoup plus
auparavant. Il y en a plus que ça, mais oui. parce que je ne vous ai pas nommé par exemple les radicaux socialistes qui sont un groupe plus petit. Et alors, les indépendants.
Oui. Pourquoi pensez-vous qu'il y a tant de groupements politiques en France ?
Écoutez, la plupart du corps électoral français le déplore qu'il y ait autant de groupes politiques que ça. On voudrait qu'à l'image de votre pays ou de l'Amérique, qu'il y ait moins de groupes politiques. N'est-ce pas ?
Vous, madame,
d'ailleurs, beaucoup de gens, en voyant beaucoup de groupes politiques, vous, sincèrement, vous avez beaucoup de gens qui ne connaissent pas grand-chose.
Oui, c'est ce que je me demandais.
Il y a beaucoup de gens dans les campagnes qui sont ignorants des différences qui existent entre les différents partis politiques. Alors, la chose serait beaucoup plus simple s'il y avait moins de partis politiques qu'il y en a dans notre pays, et c'est à déplorer.
Et je crois qu'on a essayé, par exemple, plusieurs fois de faire une espèce de fédération socialiste, n'est-ce pas, qui n'a pas très très bien marché.
Non.
Là, pourquoi pensez-vous que... Pourquoi pensez-vous que c'est si difficile de...
Écoutez ça.
De concentrer les groupements.
Nous suivons, comme tous les Français, les discussions qu'il y a entre les états-majors des différents partis politiques qui constituent la gauche française. Et on voit que ces hommes ont beaucoup de mal à se mettre d'accord pour arriver à fonder un parti commun de la gauche française. Mmh. On le constate et on le déplore en même temps. Mmh. C'est tout. Et puis ce que je vous dis là, c'est partagé par beaucoup d'électeurs français. On espère toujours, dans l'avenir, qu'il y aura un rapprochement des différents groupes politiques, par exemple de la gauche, pour en fonder une gauche unique, mais on voit les années passer et ça ne se réalise toujours pas. On l'espère et ça ne se réalise pas.
Et d'ailleurs,
on le déplore.
D'ailleurs, le système électoral est assez compliqué en France. Je me demande à quel point les électeurs comprennent. Je sais qu'aujourd'hui, c'est peut-être moins compliqué qu'auparavant. Il y a deux tours.
Oui,
mais puis il y avait toutes les complications des listes bloquées ou panachage ou.
Ah oui, on met ça.
Ça trouble pas mal de gens, voyez-vous. Oui. D'ailleurs, nous allons à chaque fois, nous allons dépouillement.
Ah oui.
Nous faisons partie d'un
On se dévoue à chaque fois.
Et à chaque fois, nous sommes.
On est scrutateur dans un groupe.
Ah oui, comment est-ce que ça se passe alors, le dépouillement?
Le dépouillement aussi, aussitôt que les élections sont terminées, suivant les villes ou les villages, c'est-à-dire à 6 heures du soir, 7 ou 10 ou 20 heures du soir, quoi.
Oui.
18, 19 ou 20 heures du soir, suivant les villes et les villages, eh bien, à ce moment-là, le président du bureau de vote, à l'heure exacte, donne ordre de fermer la porte du bureau de vote et indique aux personnes présentes que le scrutin est clos. Et à ce moment-là, alors, on prend l'urne où se trouvent toutes les enveloppes du vote et on retourne cette boîte qui contient toutes les enveloppes de vote sur une table et on commence par les mettre en paquet de 100. Et alors, d'abord, on s'assure tout de suite, d'après les listes électorales, combien il y a eu de votants. Et si on retrouve exactement, le nombre d'enveloppes correspondant au nombre de votants, n'est-ce pas? Et puis après, quand on fait des paquets de 100, des paquets de 100 qui sont répartis par table de 4 scrutateurs, et on donne, suivant le bureau de vote, l'importance du bureau de vote, on constitue plusieurs tables où on donne quelques centaines d'enveloppes à dépouiller aux scrutateurs, des scrutateurs qui sont 4 par table et dont 2 oui. tiendront un état avec les noms des candidats. Et alors, au fur et à mesure de l'ouverture des enveloppes, on s'assure que le vote est bien réglementaire. Alors, on appelle un vote réglementaire, un vote est réglementaire quand il contient qu'un seul bulletin et qu'il n'y a aucun signe apparent dessus, n'est-ce pas, ou aucune rature. Et alors à ce moment-là, on compte par table le nombre de voix qui revient à chaque candidat. Et alors, toutes les listes sont centralisées au bureau de vote, on fait le total et on l'inscrit sur un tableau à la fin. Et alors on sait que chaque candidat a tant de voix, le second a tant de voix, etc.
Ça va être très très intéressant comme travail.
Mais quand le dépouillement a lieu, vous voyez, le dépouillement, toutes ces enveloppes a lieu, le bureau de vote est ouvert à tout le monde. Et tous les électeurs peuvent se rendre compte du bon travail que font les scrutateurs.
Et il
est difficile de supposer une fraude,
C'est-à-dire que pendant le dépouillement, pendant que l'on fait l'état sur les tables, vous êtes tout de même surveillé. Vous avez beaucoup de gens.
On est surveillé par le public.
Le public a accès au
dépouillement.
Au dépouillement, il a accès. Alors là, vous êtes surveillé.
Par tous les électeurs.
Étroitement. On est surveillé étroitement.
Oui.
Ah oui.
Je peux presque vous dire, le parti auquel nous sommes le plus surveillés, c'est le communisme.
Ah oui.
Là, on est surveillé, mais alors d'une façon parfaite. D'ailleurs, nous ne manifestons jamais notre joie pour un
tas
qui augmente. Si par exemple c'est votre tas pour qui vous avez voté, pour ne pas manifester de la joie parce que vous voyez les bulletins. Non, nous restons impassibles. Ça, c'est. On se regarde, c'est tout. Et je vous assure que l'on est surveillé d'une façon parfaite.
Oui. Mais chez vous, les élections ne sont pas comme ça.
Non, il n'y a pas de tour d'abord.
Il n'y a pas de tour, ça je le sais. Oui.
Oui. Oui. Alors pourquoi est-ce qu'il y en a?
Oui, alors pour les deux tours, c'est pareil.
Parce que c'est le scrutin à deux tours. Alors au premier tour, il faut la majorité plus une voix. On appelle majorité la moitié plus une.
Oui.
Tandis qu'au second, si aucun candidat au premier tour n'obtient pas cette majorité, c'est-à-dire la moitié plus une, alors il y a donc ce qu'on appelle ballotage, puisque tous les candidats n'obtiennent pas la majorité, c'est-à-dire la moitié plus une. Alors on revote au second tour, et au second tour, c'est le candidat qui vient en tête avec le plus grand nombre de voix qui est élu.
Parce que
On trouve ça pas extraordinaire parce que les Français, ils sont habitués.
Oui.
Mais j'admire les Anglais qui votent du premier coup à un seul tour. Ah, c'est oui. que celui qui est élu, c'est celui qui vient en tête et c'est beaucoup plus simple.
Oui. Mais s'il y a les mêmes candidats au second tour, eh bien...
Non, c'est-à-dire qu'au deuxième tour... Vous avez des gens qui disent non, j'ai voté pour un tel et je vais mettre le parti le plus rapprochant. Au deuxième tour, ils ne revotent pas pour celui qu'ils ont voté au premier tour. Voilà la différence.
Et puis entre le premier et le second tour, vous avez des candidats qui se désistent, ce qu'on appelle désistement. Par exemple, un candidat qui a obtenu trop peu de voix.
Voilà.
Alors, en général, il se désiste pour la formation politique qui se rapproche le plus de la sienne.
Voilà.
Et il invite ses électeurs à porter ses voix sur le candidat,
candidat
qui se rapproche le plus.
Mais en principe, tous les candidats qui sont candidats au premier tour, est-ce qu'ils ont le droit d'être candidats également au deuxième tour?
Ah oui.
Ah oui.
Et ils ont quand... Oui, mais à la restriction tout de même, celle-ci, c'est qu'il faut qu'ils aient obtenu 10%
des voix.
Des voix.
Ah oui. 10% des voix...
10% des voix de...
Déclarées?
Des voix...
Ou 10% des voix...
Des voix inscrites.
Des voix inscrites.
Oui.
Ah oui.
Pour les... Ah oui.
10% des électeurs, alors.
Des électeurs inscrits.
Ah oui. Ah oui, ça, c'est... Ça, c'est une limite. Alors.
Oui, c'est une limite. Ceux qui ne l'ont pas obtenu, ils ne peuvent pas se représenter.
Oui.
C'est une restriction qui est imposée par le, par le suffrage universel. Oui.
Et vous avez dit que, enfin, pour vous, c'est tout à fait normal. Mais est-ce qu'il y a quelque chose dans le système électoral que vous aimeriez voir changer, vous qui êtes des experts, ce que je vois.
Oh, des experts, c'est beaucoup dire, mais enfin, il y a déjà longtemps qu'on vote, évidemment.
Oui.
Mais je trouve que le vote des Anglais est bon.
Oui, alors on voudrait tout de même qu'il n'y ait qu'un tour, parce que beaucoup de gens, ça les dérange.
Et alors, on s'aperçoit, oui, que oui. Quand il y a un ballotage, eh bien, il y a certains électeurs qui ne reviennent pas voter
au deuxième tour. Ou alors ils vont voter, sachant qu'il y aura deux tours automatiquement, ils ne vont pas voter
au premier tour,
ils vont au second tour.
Et alors?
N'est-ce pas? Vous allez dire, on vient de me déranger deux fois, et bien je ne me dérangerai qu'une fois. Mais alors,
moi, je pense qu'en définitive, si on simplifiait l'élection en ne votant qu'à un seul tour, comme on fait en Angleterre, ce serait bien.
Oui, ce serait, oui, aussi ce serait bien. Suffisant.
Oui. Mais est-ce qu'il ne faudrait pas quand même moins de candidats? Parce que en Angleterre, il y a généralement pas plus de 3 candidats. Alors,
aux élections des députés?
Oui, oui, aux élections des députés.
Tandis que chez nous, il y en a à toutes les fois, puisque je vous ai dit qu'il y avait au moins 6 partis politiques, on se trouve en face de 6 candidats, au moins. Alors oui, on a à peu près le double de candidats que chez vous.
Oui. À ce moment-là, ça doit être
et alors, c'est difficile. C'est plus difficile pour les électeurs. Et alors, encore, le corps électoral dans les villes est plus instruit, mais en campagne, il est à redouter que beaucoup d'électeurs le sont moins, et de ce fait, sont plus embêtés aux élections quand il y a de nombreux candidats.
Oui.
Voilà. Parce que chez vous, ils sont moins embêtés parce qu'il y a moins de candidats.
Oui, c'est ça, oui. Ah.
Vous avez les travaillistes et les conservateurs.
Oui,
et
dans puis, beaucoup de circonscriptions.
Il y en a que deux. Candidats. Et puis encore, un autre, lequel parti chez vous, le troisième?
C'est le Parti libéral.
Ah ben c'est ça.
Oui, et puis alors, quelques indépendants.
Ah, ça fait cadeau.
Il commence à y avoir de tout petits partis qui naissent maintenant.
Ah bon?
Des nationalistes, les séparatistes plutôt, séparatistes d'Écosse et séparatistes du Pays de Galles. Il y a maintenant deux membres,
deux parlementaires.
L'une qui représente le parti nationaliste écossais et l'autre qui représente le parti nationaliste ou séparatiste du Pays de Galles. Alors vous voyez, ça commence chez nous, peut-être.
Mais qu'est-ce qu'ils veulent ces gens-là? L'indépendance de l'Écosse ou la...
Oui, c'est ça. Enfin, pas l'indépendance, mais plus de... régionalisation.
Plus d'autonomie.
Plus d'autonomie.
Oui, c'est ça. Ah oui.
Ils veulent retrouver leur nationalisme
d'il
y a tant de siècles.
C'est ça. Oui. Ça se rapprochera un petit peu aujourd'hui de ce qu'on voudrait faire en France avec les régions.
Oui, il y a une comparaison à faire là.
Un peu.
Oui, oui. Surtout peut-être avec la Bretagne.
C'est ça. Les autonomistes bretons qui sont chez nous minoritaires, c'est tout de même, oui.
Minoritaires en Bretagne même?
Ah oui, minoritaires en Bretagne, puisque M. Pleven, qui est un des principaux parlementaires bretons, l'a encore dit récemment.
Ah oui.
Voilà.
Selon vous, quelle est maintenant la différence essentielle entre la droite et la gauche en France? Je vous pose la question parce que c'est une question qui se pose en Angleterre. Quelles sont les différences vraiment entre la droite et la gauche aujourd'hui? Est-ce qu'il en reste ou est-ce qu'il n'en reste pas?
Écoutez, la droite et la gauche se voudraient le défenseur du corps social des travailleurs, tous les deux. Je pense que chez vous c'est sans doute comme ça aussi, mais il y a loin de la réalité aux promesses aussi. Et la droite et la gauche ont des moyens différents d'y parvenir.
Oui.
Parce que la gauche, voyez, qu'est-ce que vous appelez la gauche?
La gauche, en France, la gauche, c'est le Parti communiste.
Oui.
C'est les socialistes, sont les radicaux. Une partie du centre aussi, si vous voulez, ce qu'on appelle le centre. Et alors, la droite étant tous les autres, c'est-à-dire une partie du centre, l'UDR, et les indépendants.
L'UDR est un parti de droite, alors.
Il s'en défend d'être un parti de droite, mais puisque à l'intérieur de l'UDR, il y a un parti de gauche.
Oui.
Alors, vous voyez, ils ont des implications les uns dans les autres où justement les électeurs s'y perdent un peu. Hein.
Oui. Mais alors, comment est-ce qu'on décide de se mettre l'appellation droite ou gauche? Enfin, pourquoi est-ce que, par exemple, au sein de l'UDR, il y a un groupe qui se dit de gauche et un groupe qui se dit de droite?
C'est-à-dire qu'il y a deux tendances, une tendance de gauche au sein de l'UDR et une tendance de droite, n'est-ce pas?
Alors comment est-ce qu'on choisit droite ou gauche comme appellation?
C'est assez embarrassant de répondre à une question.
Oui. C'est peut-être que aussi j'ai entendu dire une petite expression. Je ne sais pas d'où cela vient,
Mais
qu'en France, je ne sais pas si c'est les hommes de politique ou enfin si c'est les Français en général dire qu'il n'y a pas d'ennemi à gauche. Il n'y a pas d'ennemi à gauche. C'est-à-dire, je suppose qu'on préfère la gauche.
Non.
Vous avez entendu ça ou est-ce que...
Non, jamais. Je n'ai vraiment pas entendu ça, même à Paris, dans des réunions politiques, quelles qu'elles soient, on n'a pas d'ennemi à gauche.
Non.
Pas d'ennemi à gauche, c'est pas ce que disait Guy Mollet.
Non, Guy Mollet c'est autre chose, lui. C'est un homme plutôt à gauche qu'à droite.
Oui.
Ah ben, Guy Mollet c'est le chef du Parti Socialiste, vous le connaissez bien.
Oui.
Non, c'est un ancien professeur aussi, d'ailleurs.
Ah oui.
C'est le député maire d'Arras.
Ah oui, j'ai entendu dire ça. Oui. Est-ce que M. Carrefour a bien vu aujourd'hui?
Philippe Garfort, oui. Un bon prestige, oui.
Oui. À cause de sa réforme.
Comment?
À cause de sa
avant sa réforme,
oui.
Edgar Faure avait les sympathies d'une grosse majorité de Français, certainement.
Oui. Et vous croyez que sa réforme va réussir pour l'enseignement?
Pour
l'enseignement,
moi je le crois fortement.
Je le crois.
Oui. Parce que c'est un homme...
Il s'est dépensé pour cette réforme, vous savez, tout de même. Mmh. Évidemment, il s'est dépensé, comme on dit, corps et bien pour cette réforme, et moi je souhaite qu'il y ait mis tellement de cœur que sa réforme aboutisse à des résultats concrets.
Mmh. Moi je crois que jusqu'à ce jour, c'est le seul homme, tout de même, où il s'est dépensé autant. N'est-ce pas? Il a été à un moment donné ministre de l'Agriculture, il n'était pas du tout dans son élément. Mais là, je le vois très bien dans son élément.
Oui.
D'ailleurs, ayant été étudiant lui-même, il connaît la question à
fond. Il a été étudiant et il a été professeur de l'université.
Oui, je crois que... Il arrivera à quelque chose. C'est un grand homme politique et connaît son affaire.
Ah oui.
Oui, connaît son affaire.
Alors c'est,
On pense que sa réforme aboutira à d'heureux résultats.
Bon. Oui.
Si souhaitons.
Oui, si les étudiants l'acceptent, je suppose.
Ah, tous les étudiants l'acceptent. Non, il y a une minorité qui l'a refusé.
Enfin, la majorité.
Mais enfin, la majorité paraît la vouloir, la réforme de Edgar Faure.
Oui, oui.
Et alors, même du corps enseignant aussi.
Oui. Ah. Alors, qu'est-ce qui vous semble le plus à souhaiter dans ce qu'il a proposé?
Écoutez...
La participation des étudiants à la
gestion. Oui, c'est ça.
La réorganisation.
Moi, je pense que la participation qu'il a demandée et obtenue, quoi, dans beaucoup d'établissements, c'était une belle chose, ça, que les étudiants ont obtenu, le corps enseignant l'avait sans doute dans beaucoup de cas, mais... Les étudiants l'ont obtenu, je pense que c'est une chose admirable pour eux.
Et vous pensez qu'ils sont capables d'aider à la gestion?
Certains, oui.
Certainement, parce que...
Mais écoutez, certains sont à la hauteur.
Dans les étudiants, tout de même, nous pensons, dans les étudiants comme dans toutes les collectivités, je pense que les étudiants enverront, pour les représenter, les meilleurs d'entre eux. Ils ne devront pas envoyer les tocards, mm-hmm. pas mm-hmm. Alors, dans ces conditions, je pense que ça devrait être payant.
Ah oui, tant mieux. L'enseignement a dû beaucoup changer depuis que vous avez fait vos études.
Ah oui.
Énormément.
Oui.
Dans le primaire, peut-être pas, parce que...
Dans le primaire, ah oui.
Parlons souvent avec des instituteurs et dans le domaine, il n'y a pas beaucoup de choses de changer.
Non.
Mais alors, évidemment, dans les écoles supérieures...
Dans le secondaire et supérieur, ça a très changé, mais je ne pense pas que le programme du primaire actuel ait tellement changé d'il y a des années.
Non.
Je ne sais pas comment en Angleterre, c'est les écoles primaires, le premier diplôme, c'est... Comment ça s'appelle en Angleterre? Certificat d'études primaires?
Non, il n'en a pas.
Il n'y a aucun diplôme qui sanctifie les études primaires? Aucun?
C'est-à-dire que depuis 1944, il n'y a pas d'école primaire où on fait ses études jusqu'à 13-14 ans. L'école primaire, c'est une école où on va jusqu'à 11 ans.
11 ans. Oui.
Et puis il n'y a pas de...
Il n'y a pas de diplôme. On va à l'école. L'école primaire jusqu'à 11 ans.
Oui. Et puis ensuite, c'est l'école secondaire.
Et alors, à l'école primaire, puisque vous êtes dans l'enseignement, à l'école primaire anglaise, alors, qu'est-ce qu'on a...
Beaucoup de... Beaucoup d'utilité à réentendre ce que vous avez dit.
Ah oui?
Oui, parce que vraiment, il y a beaucoup de petits détails et de gros détails, je vous dirai après.
Oui,
Que j'ai appris sur ce que vous avez dit. Alors, nous parlions de l'enseignement et de la manière, de comment l'enseignement avait changé depuis que vous avez fait vos études. Et vous avez dit que surtout, Secondaire et supérieur.
Secondaire et supérieur. Oui, mais alors là, je ne peux pas m'étendre sur la question, parce que vous savez, cette question-là, c'est trop délicat tout de même. Et je laisse le soin de vous parler de ces questions-là à des collègues qui soient instituteurs ou professeurs. Par exemple, si je vois monsieur cette semaine, je veux bien en parler. S'il vous reçoit dans 8 jours, je lui en parlerai. S'il veut bien vous recevoir, je lui dirai que c'est une conversation, en somme, n'est-ce pas?
Oui. Oui,
et alors,
ça,
je parlerai de vous, puisque j'ai conservé la carte de votre collègue, tenez. Je l'ai mise là.
Ah oui, ça, vraiment, ça serait très utile.
Vous voyez, je l'avais marqué.
Oui, c'est ça, oui.
Pour le 13 avril, vers 15h. Alors, je lui montrerai ça, puis je lui dirai le sujet de la conversation qu'on a eue ensemble. On a parlé tout un tas de choses, vous savez, de plus ou moins. Enfin, si, ce sont des choses valables, quoi, mais enfin... Et c'est un pot pourri, quoi, comme on dit chez nous pour les chansons. Vous savez ce qu'un pot pourri veut dire?
Oui, c'est-à-dire
un couplet de toutes les chansons, quoi.
Oui, mais c'est ça qui apprend.
Comment?
C'est ça qui apprend.
Ah oui, oui, oui. Alors oui, je vous dis, je ne m'étends pas sur les questions d'enseignement parce que je ne suis pas qualifié pour vous parler de l'enseignement secondaire et de l'enseignement supérieur. Mon fils qui est ingénieur pourrait peut-être vous en parler, mais un professeur ou un instituteur chez nous que vous verrez, soit monsieur ou d'autres, vous parleront de ces choses-là. Nous, on ne peut pas vous parler de ces choses-là, on n'est plus,
on n'est plus dans l'actualité. Vous avez quand même des opinions. Jusqu'à quel âge, par exemple, est-ce que vous estimez qu'un enfant doit poursuivre ses études?
Écoutez, oui, alors là, je peux vous parler, si vous voulez, en tant que parent ou grand-parent.
C'est ça.
Qui avons eu des enfants et qui avons des petits-enfants. Moi, j'estime, pour cette raison-là, qu'un enfant qui n'est pas doué pour les études devrait sortir de l'école avec un bon métier à 18 ans.
À 18 ans?
À 18 ans. S'il n'est pas compétent, s'il n'a pas la tête pour faire des études, mais qui sortent à 18 ans de l'école supérieure qu'on appelle, par exemple, l'école où on apprend un métier, manuel, et alors qui sortent nantis d'un bagage à 18 ans pour apte à travailler dans les usines ou les ateliers.
Ah oui.
N'est-ce pas? C'est-à-dire que moi, je vois, si vous voulez, l'école primaire jusqu'à 16 ans, si vous voulez, puis c'est ce qui est actuellement ce qu'il y a chez nous, et puis après 2 années pour apprendre un métier. Parce que je trouve que pour apprendre un métier, si on veut pousser jusqu'à 20 ans, pour des familles nécessiteuses, ce sera trop lourd. Des familles qui ont beaucoup d'enfants trouveront les années d'école, même jusqu'à 20 ans. Trop longue et trop lourde pour le ménage.
Et vous aussi, madame, vous croyez que jusqu'à 16
ans... Moi, je trouve à 18 ans...
Doit sortir avec un métier.
Oui. Un métier.
Oui. Tandis que celui qui a la tête...
Ah, celui qui a la tête,
évidemment,
qui fait des études moyennes...
Nous avons eu 1/2, voyez-vous. Notre année, il a été jusqu'au brevet et c'est fini les études pour lui.
Oui.
Tandis que mon cadet, évidemment, il avait la tête pour apprendre. Alors lui, ça lui rentrait facilement. Nous ne l'avons jamais aidé en quoi que ce soit.
Très peu.
Et il est sorti ingénieur à 21 ans. Alors vous voyez qu'il a bien travaillé. Il n'avait besoin du concours de personne.
Les diplômés de l'école supérieure des travaux publics de Paris. Et il est sorti 3e de sa promotion... Et 2 redoublants étant devant lui, des redoublants
de 30 ans.
Et beaucoup plus âgés que lui. Alors pour moi, il est presque sorti le premier, vous comprenez?
Oui, Ah oui, ça c'est vraiment une ambition.
Il était doué pour les études.
Très bien.
Alors à ce moment-là, comme je disais, pour revenir à ces questions, ceux qui ont la tête pour apprendre comme celui-là, peuvent faire des études moyennes, ou des études supérieures, les conduisant au doctorat de médecine, ou doctorat de littéraire, ou ingénieur, ou chercheur, s'ils ont la tête. faisant des études ouais. jusqu'à 25-30 ans. Ben, quand on a la tête.
Jusqu'à bon. 30 ans, vous croyez
quand vous voyez, nous, on a bien voulu qu'il soit docteur.
Oui, j'aurais bien voulu.
Nous, malgré nos petits moyens, nous l'aurions poussé jusqu'au bout.
Ah oui.
Ouais, il a voulu s'arrêter, il dit l'ingénieur, c'est pas
il marrant. Il a préféré être ingénieur, n'est-ce pas vous comprenez bien qu'un jeune homme, quand il a passé 20 ans, c'est son opinion personnelle qui prévaut sur celle de ses parents en général. Qu'est-ce que vous voulez? Ça, c'est toute sa vie qui est en jeu. Il est normal qu'un garçon, qu'une jeune fille de cet âge-là, il fasse comprendre à ses parents qu'il aime mieux cette branche-là qu'une autre pour ses goûts personnels.
Oui.
Alors c'est tout à fait compréhensible. Oui. À ce moment-là, il se donne à fond quoi, pour cette profession qu'il a envisagée.
Oui.
Et alors, quelqu'un qui a la tête peut très bien, je comprends, étudier jusqu'à 25-28 ans.
Mm-hmm.
Oh, 30 ans, c'est un maximum quand même.
Oui, c'est un maximum.
Remarquez qu'il y en a... Ceux qui se destinent à la recherche étudient tout le temps, si vous voulez. D'accord.
Oui.
Mais c'est une minorité quand même.
Qu'est-ce que vous croyez qu'on devrait surtout apprendre aux enfants à l'école?
Le travail et l'honnêteté.
Ah oui, les deux.
Ouais.
En premier, le travail.
Oui.
Parce qu'on voit dans le monde moderne, comme dans le monde de l'Antiquité, que c'est toujours le travail qui a fait avancer les nations. Les nations d'avant, c'est le travail qui... Enfin, partout. Aussi bien les Romains que les Grecs... Et aujourd'hui, les nations en avance, aussi bien l'Amérique que la Russie, votre pays ou le nôtre, c'est le travail qui fait avancer les nations. Et les nations qui restent très en arrière, c'est les nations, malheureusement pour elles, où on ne travaille pas assez.
Oui. Et l'honnêteté, vous dites.
L'honnêteté. D'être honnête, un homme, quelqu'un qui est honnête, c'est beau. D'avoir une conscience, dire je suis honnête sur tout, je suis intègre sur tout, je trouve que c'est beau.
Mais enseigner, vous parlez aussi d'une chose qu'on devrait enseigner aussi, mais ce qu'on fait dans les écoles, c'est la justice. Il faut se pencher sur la justice, dans tous les domaines, et ça c'est difficile.
Et comment enseigner ce genre de choses, l'honnêteté et la justice, alors? Par quel moyen? Par des cours ou...
Ah oui.
Oh, ça, l'honnêteté, la justice, vous savez, l'honnêteté, c'est... je crois que ça vient d'individu un peu.
Oui.
Hein. Vous avez des enfants que vous allez bien éduquer pour être honnête et puis malgré eux, n'y sont pas.
Mm-hmm.
Alors ça, c'est assez difficile.
Mm-hmm.
Nous avons eu deux enfants, et bien je peux vous dire qu'ils ont été honnêtes, même à l'école.
Bah.
Et jamais n'aurait rapporté, par exemple, un objet qui ne leur appartenait pas. Et avec juste raison, c'est parce que moi, étant honnête, ayant des parents honnêtes, je ne leur ai jamais admis qu'ils leur apportent quelque chose qui ne m'appartienne pas.
C'est ça.
Alors, du moment que vous inculquez...
Ce sont les bons exemples.
Un enfant, n'est-ce pas, d'être honnête, je crois qu'ayant de bons principes, je crois qu'il arrive à y devenir.
Oui.
N'est-ce pas?
Oui. Oui. Est-ce qu'on fait des leçons de morale aux enfants dans les écoles
en France? Déjà, moi, quand j'allais à l'école, j'étais à l'école, je peux vous dire, je me rappelle, attendez, mes années d'école, là, en oubliant les années d'école maternelle, que je ne compte pas naturellement, mais l'école primaire, j'ai commencé à aller à l'école primaire en 1907, et j'ai terminé mon école primaire avec mon certificat d'études en 1914. Et cette 14, cette année. Et alors, je me rappelle plus bien tout de même, je ne pense pas que dans les premières années de l'école primaire, c'est-à-dire en cinquième, je ne sais pas comment vous appelez, en cinquième classe, quatrième, les classes de l'école primaire, cinquième, quatrième, troisième, deuxième et première, Eh bien, en cinquième, on était vraiment trop petit. On a 6 ans, entre 6 et 7 ans, pour vous parler de morale, peut-être. Ouais. Mais ça commençait à la classe d'après. Hein? Parce que la première année d'école primaire, c'est le dégrossissage. Hein? Pour vous apprendre à former des lettres avec des bâtons, etc. Aujourd'hui, ça s'est peut-être amélioré, mais enfin, dans ce temps-là, le dégrossissage par les instituteurs et les institutrices qui avaient beaucoup de mérite, surtout de prendre des enfants qui, quelquefois, n'avaient pas fréquenté d'école maternelle et ne connaissaient absolument rien. Alors, la première année, on ne faisait pas de morale, je pense, mais alors, dès la deuxième, la quatrième, troisième et seconde et première, alors il y avait toujours des cours de morale et d'instruction civique, comme vous parliez tout à l'heure, l'instruction civique où on vous apprend la division administrative du pays en communes, en cantons, arrondissements, départements, etc.
Oui. Dans quelle matière est-ce que vous estimez qu'il est bon qu'un enfant soit fort à l'école?
Aujourd'hui, où il faut qu'il se penche davantage, c'est sur les mathématiques. Parler mathématiques à l'école primaire, c'est du calcul, quoi,
oui,
à l'école primaire.
Plus tard, les
mathématiques, ça commence que quand on apprend de l'algèbre. Oui. Ou de la trigonométrie, ou de la géométrie.
Et vous aussi, madame, vous pensez les mathématiques?
Oui, je crois que les mathématiques sont compris.
Les sciences.
Quand l'enfant a tout de même un esprit plus développé, tout de même vers 14 ans, par exemple.
Ah oui.
14 ans, 16 ans. Là, tout de même, les mathématiques, ils les comprennent mieux qu'à 12 ou 10 ans.
Oui.
Moi, vous voyez ce que vous me disiez tout à l'heure, mais enfin, ça, je veux dire ça, ils seront peut-être stupéfaits si les gens de m'entendre dire ça, mais moi, je trouve que déjà, à l'école primaire, on devrait commencer dans les écoles primaires aujourd'hui, c'est apprendre l'algèbre du premier degré. Alors que... À ma connaissance, je connais des instituteurs, j'en fréquente, et on n'apprend encore pas l'algèbre du premier degré. Ben, l'algèbre du premier degré, si vous connaissez l'algèbre du premier degré, c'est tout de même pas grand-chose, et c'est pas inaccessible à des enfants qui aient 12, 13 ou 14 ans quand même. Alors on devrait les débuter aujourd'hui, que les sciences sont très avancées, alors commencer de leur parler de ce début d'algèbre. Aujourd'hui. Alors, on en est encore toujours qu'au programme d'il y a 40 ou 50 ans. Alors, moi, je trouve que là on n'avance pas assez dans l'école primaire. Je ne sais pas si en Angleterre, c'est comme ça, mais non, puisque vous m'avez dit qu'en école primaire, chez vous, on n'allait que jusqu'à 11 ans. Alors, jusqu'à 11 ans, je conviens qu'on ne puisse pas apprendre à des enfants de l'algèbre, même du premier degré. Mais à 12, 13 ou 14 ans, on doit commencer à apprendre à des enfants l'algèbre du premier degré. Qu'est-ce que c'est que ça, l'algèbre? L'X, bon, et X, l'algèbre du premier degré, c'est bien peu de choses, quand même. Alors, on devrait commencer à leur apprendre ces choses-là, l'algèbre du premier. Je dis pas les équations bicarrées, c'est trop compliqué, ou l'algèbre du second degré, mais commencer à leur parler d'algèbre dans 13 ou 14 ans, à la fin du primaire. Et je pense que ça devrait pouvoir se faire, et ça se fera sans doute, mais ouais, pour moi, je trouve, et je ne suis sans doute pas le seul à trouver qu'on tarde à apprendre ces choses-là, à la fin du primaire.
Et qu'est-ce que vous pensez du latin à l'école?
Le latin, c'est autre chose.
Oui.
Le latin, à mon point de vue, c'est pour leur apprendre...
Les racines.
Oui.
L'étymologie.
Mon fils a fait beaucoup de latin.
Mon fils a fait beaucoup de latin, mais en tant qu'ingénieur électricien, vous savez, puis d'ailleurs, vous voyez, il a appris, je vais vous dire, en toute sincérité, il me l'a dit l'autre jour, il avait appris l'allemand et l'anglais, et il était toujours le premier en allemand, il pouvait faire un professeur d'allemand. Je lui ai dit aujourd'hui, ça fait 10 ans qu'il est ingénieur, il m'a dit ça ne m'a absolument servi à rien. fait de l'homme. Qu'est-ce que vous voulez? Ben évidemment, il n'a pas occasion, il n'a pas tout oublié, d'accord. Mais comme il n'a pas occasion de s'en servir, ce qui lui est utile, c'est les choses d'électricité qu'il lui a, hein, oui, qu'il a apprises et qu'il a besoin journellement dans son métier.
Est-ce que vous trouvez que tous les enfants devraient apprendre le latin?
Moi, je trouve surtout, c'est quand vous me parlez d'une langue, oui, c'est que tous les enfants des écoles, tout au moins européennes, par exemple, sinon mondiales, ils devraient avoir une langue commune pour nous faire comprendre aussi bien de toutes les nations qui nous entourent. Alors, que vous l'appeliez espéranto ou l'anglais, s'il est plus commode à apprendre, mais qu'on généralise l'anglais comme seconde langue partout.
Et qu'on puisse se comprendre
parce sous toutes les latitudes.
Quand on va dans un pays étranger, vous savez...
Bah, c'est bien gênant quand même.
C'est gênant.
Quand vous allez, par exemple, en Espagne ou en Italie, vous voyez bien, si vous ne connaissez pas la langue du pays, hein, de ne pas pouvoir,
parler,
s'exprimer, au lieu de...
Par geste, par langage,
c'est gênant. Oui. Alors on trouve aujourd'hui dans les écoles où il devrait y avoir une seconde langue commune.
Ah oui, oui.
Et en Europe tout au moins, ou sinon dans le monde.
Oui.
C'est souhaitable, ces choses-là. Et alors on trouve que les dirigeants de nos pays,
ils devraient s'appuyer là-dessus. On va en Angleterre, on se fait comprendre par cette langue. On va en Allemagne, on se fait comprendre par cette langue. Alors je trouve que tout de même la vie serait... possible dans tous les pays.
Et ce serait souhaitable pour beaucoup de choses.
Il fut un temps où on a été quelque temps en Espagne. Aussi bien, là, pour la monnaie, on arrive presque tout de suite à se mettre à la page, comme l'on dit. Mais pour se faire comprendre, on est sourd, on est là, on se regarde, on ne sait plus. Nous sommes allés l'année dernière en Allemagne, pareil. La même chose, nous n'avons pas été trop empruntés parce qu'on avait une amie qui parlait très bien l'allemand. Alors comme nous étions avec elle, alors là, ça a bien marché.
Mais c'est avec l'interprète, ça allait très bien.
Sans elle, croyez-moi, c'est pas plaisant. D'aller dans un pays, on ne peut pas se faire comprendre, on est là.
C'est vrai, c'est
regrettable.
Et alors on trouve que malgré toutes les organisations internationales qui existent, que ces choses-là tardent.
Oui. C'est nécessaire.
À se faire dans les écoles, par exemple. Oui. Dans les écoles de tous les pays, de ne pas avoir une langue commune.
Alors, la dernière question. Qu'est-ce qui fait, pensez-vous, que les enfants réussissent ou ne réussissent pas à l'école?
Qu'est-ce qui fait qu'ils ne réussissent ou qu'ils ne réussissent pas? C'est bien ce que Garfoy disait. Écoutez, le travail à l'école, c'est un travail personnel, c'est bien, si vous voulez. Alors, c'est pour ça que qu'Edgar Faure, dans sa réforme, il préconise qu'à un moment donné, les plus faibles soient entraînés par les plus forts dans des pelotons, vous comprenez, ou dans des sections. Évidemment, c'est pour entraîner les retardataires avec les meilleurs. Mais néanmoins, vous savez, je sais bien que ce qui fait la réussite dans les écoles, c'est le travail personnel.
Ah oui.
Et alors, le travail personnel, ça vient de quoi? Ça vient de, l'intelligence que vous avez là.
Oui, tout de même.
Et alors,
l'intelligence. Et puis, est-ce que la famille compte pour
Ah oui, la famille et les antennes. Et les antécédents, vous savez bien, l'hérédité, naturellement, qu'est-ce que vous voulez, ces choses-là.
Et puis le milieu social, est-ce que
Le milieu social.
Ah, c'est pour beaucoup.
Oui.
Vous avez des familles, par exemple, où l'on boit. Bien, je ne crois pas que l'on fasse un enfant intelligent.
Réellement, vous savez.
La famille est faite pour beaucoup, croyez-moi.
Oui.
Maintenant, vous avez des exceptions, vous avez des accidents dans les familles, n'est-ce pas? Alors, il ne faut pas tout mettre sur le même plan. Mais beaucoup de familles, nous en avons remarqué, nous, que dans les familles où le milieu n'est pas très favorable et les enfants ne font rien à l'école.
C'est le mauvais exemple influe beaucoup sur les enfants.
Oui.
Et puis comme le bon exemple également.
L'ambiance de la famille, tout ça, l'harmonie des parents, tout ça,
ça influe.
Ça influe sur l'enfant, certainement.
Est-ce que les différences entre les classes sociales sont très marquées?
Ou chez nous, en France?
Oui.
Oh non.
Non?
Il y a ce qu'on appelle les classes moyennes très étendues.
Quoi. Oui.
Enfin, néanmoins.
Est-ce qu'elles sont moins marquées qu'auparavant, les différences?
Elles sont moins marquées qu'auparavant.
Oui, plutôt.
D'où est-ce que cela vient, pensez-vous?
Comment?
D'où est-ce que cela vient, pensez-vous?
La différence des classes sociales?
Oui. Et puis la diminution de la différence?
La diminution de la différence, ça provient, je crois, au fur et à mesure de l'élévation intellectuelle des individus. Mm-hmm. Au fur et à mesure, je pense que dans une nation, il y a moins d'ignorants, ces gens-là s'élèvent, gagnent davantage, et les classes les plus appauvries diminuent, et alors augmente la densité des classes moyennes.
S'il y a classe moyenne, alors c'est-à-dire qu'il
reste... classes supérieures, les évidemment, supérieures, les classes supérieures sont les classes dirigeantes, qu'est-ce que vous voulez. Les classes dirigeantes ou les classes fortunées, ça.
Ah oui.
Et les grandes fortunes en France ou en Angleterre, évidemment, font partie des classes supérieures.
Oui. Comment est-ce qu'on reconnaît un membre des classes dirigeantes?
Comment on les reconnaît?
Oui, à quoi est-ce qu'on les reconnaît?
Apparemment, dans la rue, vous ne les reconnaissez guère.
Non. C'est-à-dire qu'on les reconnaît tout de même à leur langage. À leur mise, à leur comportement.
Vous les reconnaissez.
On les reconnaît.
Oui, mais vous les reconnaissez surtout, c'est à leur résidence, quoi, et à leur train de vie.
Pas toujours. Moi, j'ai connu des gens qui ont resté dans des HLM, qui en sont vite partis par la suite. Parce que. Qui est-ce qui restait dans un HLM, monsieur? Tout de même. Monsieur ici, il arrêtait dans un HLM. Cet homme-là n'était pas dans un HLM. Il est resté quelque temps et puis quand il a pu s'en évader, s'en était évadé. Mon fils par lui-même, quand il était nommé à Poitiers, a été dans un HLM.
Il n'y a pas été longtemps.
Il n'était pas dans un milieu.
La promiscuité
Il est resté un an, le temps de s'organiser. Nous sommes allés une fois ou deux. Peux fermer la plaie pour ouvrir les volets. Nous sommes allés une fois ou deux le voir, et du moment, c'est saturé, les temps sont en mal. Nous ne sommes pas dans notre milieu. Je suis allé de suite, donc c'est ton avis. Il est resté un an, le temps de s'organiser, et il a acheté par la suite un appartement. Il était connu en communauté, mais il a fait comme nous, il a acheté un pavillon. Voyez-vous, mon fils, mes enfants ont été élevés en pavillon.
Oui.
Ils n'ont pas été élevés en communauté. Mm-hmm. Eh bien, je crois que tout de même, ça marque un enfant. Ça marque un enfant. Ils ont été élevés comme ils ont été élevés, de se voir après autrement, eh bien, sincèrement, on voit tout de même la différence d'un enfant qui a été élevé dans un milieu social, dans un milieu bien, alors je crois tout de même, ça influence beaucoup sur son caractère.
Et vous avez parlé des différences de langage entre les deux.
Ah, le différent de langage n'est pas le même.
Oui.
Oh, non.
Il y a de grandes différences de langage entre les gens de différents milieux.
Dans la façon de s'exprimer.
Oui, et puis dans leur comportement. Nettement, ça se voit. Vous avez des gens qui se comportent d'une façon tout à fait grossière. Quand ils arrivent quelque part, on voit le milieu d'où ils viennent.
Ah oui.
Ça se voit beaucoup.
Et en quoi consistent les différences de langage entre les gens de différents milieux?
La façon de s'exprimer. Avec des mots qui sont plus recherchés que le. Dans l'anglais, c'est pareil.
C'est pourquoi je vous pose la question. Non, c'est pas tout à fait pareil. J'ai l'impression. L'accent compte pour beaucoup en Angleterre. Est-ce que l'accent compte en France?
Non. Non, ça ne
compte pas. Il y a différents accents, c'est évidemment chez nous aussi. Mais vous voyez, d'après les instituteurs et les professeurs, enfin, il est reconnu qu'en France, la région où on parle le français le mieux, c'est la Touraine.
Mm-hmm. La Touraine.
Et la Touraine et l'Orléanais
sont voisins.
Paris,
la Touraine.
Oui. Alors, c'est la région de Tours et d'Orléans où je pense...
C'est la région, c'est la région.
Où on a le moins l'accent. Oui. Parce que si vous allez dans le Midi, il y a un accent, l'accent méridional. Et puis dans le Nord, c'est pareil.
Ouais.
Les ch'timis...
En Bretagne, en Bretagne aussi, vous avez l'accent breton.
Oui.
Alors on dit, tiens, j'ai des Bretons. Tiens, ce sont des Parisiens.
Oui.
N'est-ce pas? C'est ça qu'on appelle l'accent.
Oui. Oui, mais ça, c'est pas nécessairement lié aux différences de milieu.
Non, pas du tout.
On appelle les différences de langage. Les différences de langage, c'est parce que les gens qui font partie des classes dirigeantes, qui ont plus d'instruction que les ouvriers, alors n'emploient pas dans leurs expressions les mêmes mots, puisque la langue française est très riche en mots, n'emploie pas les mêmes mots pour s'exprimer que les ouvriers.
Ils ont ce qu'on appelle
un langage plus choisi. Et alors, je ne sais pas si en anglais c'est possible, mais en français, c'est possible parce qu'on a une très grande étendue de mots. Comprenez?
Mm-hmm.
Alors, je crois que en anglais, l'étendue est moins grande, d'après ce que j'ai entendu parler. Hein? Mm-hmm. C'est vrai, c'est plus commode à parler, je crois. On m'a dit que l'anglais est réputé pour la langue mondiale la plus commode à parler.
Oui.
Hein? C'est vrai, c'est tout un honneur de l'anglais. Et alors, à côté de ça, vous voyez, d'après ce que l'on dit, je vous répète ce que l'on dit en général, chez nous tout au moins, la langue la plus difficile, ce serait l'allemand. Et pour les étrangers, on dit que c'est le français. Évidemment, moi je ne suis pas qualifié pour vous dire si le français est difficile à apprendre, puisque je l'ai appris dès le jeune âge. Mais enfin, je conviens que mon fils qui a appris les deux langues, l'anglais et l'allemand, il m'a dit que l'allemand était bien plus difficile à apprendre que l'anglais.
Ah oui. Est-ce que vous pensez que les gens parlent de mieux en mieux ou de plus en plus mal ou sans changement aujourd'hui? Parlent français.
Les enfants parlent mieux.
Les enfants, je ne parle pas des parents, mais les enfants parlent mieux
qu'avant. Et surtout, nettement dans les campagnes. Je trouve que les enfants parlent mieux.
Dans les campagnes, on s'en aperçoit, je ne sais pas en Angleterre, mais chez nous, dans nos campagnes, on s'aperçoit que les enfants
parlent mieux que leurs parents.
Il y a 20 ou 40 ans, voulez, oui.
Et cela vient de quoi?
Ça vient probablement du corps enseignant.
Certainement.
C'est tout à l'honneur du corps enseignant, ça.
Et parmi vos connaissances, quelle est la personne qui parle le mieux le français? La profession. Quelle profession parle le mieux le français, pensez-vous?
Une profession, je crois que c'est les professeurs. Les professeurs, tout de même, ont un langage assez recherché.
Quelle profession? Attendez. Oui, les professeurs, d'accord. Mais chez nous aussi, les gens qui parlent bien sont les avocats. Les avocats, voyons, c'est leur métier.
Oui, incontestablement.
Chez vous aussi, les avocats parlent
bien. Oui, bien sûr.
C'est-à-dire qu'il y a d'autres qualités à part le langage qu'il faut avoir pour être un avocat.
Les gens qui sont qualifiés pour le langage, c'est tout de même les professeurs.
Oui.
Ils apprennent aux enfants à parler tout de même.
Oui.
Ils emploient des termes que nous n'employons pas.
Je vois bien, puisque j'en fréquente tous les jours, enfin, des instituteurs ou des professeurs, vous voyez, et quand on est, si vous voulez, ces gens-là conservent un langage
assez recherché.
Choisi. Même chez eux, par exemple, puisque c'est leur fonction, ben même chez eux, dans leur intimité, forcément, leur langage est choisi.
Leur langage est choisi.
Est-ce qu'il y a en France un organisme qui décide si un mot ou une expression fait partie ou non du bon français?
Un organisme qui...
Oui, qui décide si un mot ou une expression fait partie ou non du bon français.
Ah, c'est les académiciens, l'académie.
Ah oui,
oui.
C'est eux qui sont chargés du dictionnaire.
Ah oui.
L'étude du dictionnaire de la langue française.
C'est un travail utile, pensez-vous?
Ah, c'est un travail utile, oui.
Très utile ou utile?
Ah, très utile. Ah, c'est très utile. C'est très utile parce que, vous voyez, aujourd'hui, avec les sciences qui avancent d'une façon prodigieuse, aussi bien au point de vue atomique que spatial, eh bien, il y a l'étude des mots nouveaux qu'il faut que l'Académie étudie constamment.
Oui, qui les adopte.
Qui les discute et les adopte.
Oui. Est-ce qu'il faudrait obliger les speakers de la télévision, les journalistes à la radio, à employer un bon français?
Ah oui, c'est très utile.
Quel point de vue?
C'est très utile qu'à la radio, la télévision, ils emploient...
À quel point de vue, Martine, d'exemple? Certainement.
Ah oui, comme pour les professeurs.
Ah oui. Et c'est souhaitable, ça, cette chose-là.
Oui, c'est souhaitable.
Même aujourd'hui, par exemple, que tous les enfants, enfin les enfants écoutent souvent la radio et la télévision, c'est primordial que ces gens-là s'expriment dans un français impeccable. C'est souhaitable, c'est pas toujours le cas, d'accord, mais enfin, c'est souhaitable. Oui. On l'entend bien quand ils font des lapsus ou d'autres.
Oui. Voilà. Est-ce que la langue française est aussi bien enseignée qu'autrefois, selon vous? Aussi bien ou mieux ou moins bien?
La langue française est certainement mieux enseignée.
Oui.
Et vous voulez faire la critique de notre enseignement là?
Non.
Vous documentez quoi?
Sur ce que vous sentez, même sur la langue.
Il y a du progrès dans le domaine.
Oui, il y a du progrès parce que je vais vous dire, moi j'ai vu par exemple, l'autre jour, je suis allé chez mon fils à Poitiers, j'ai vu les livres scolaires de mon petit-fils de 7 ans, ben ils sont autrement plus instructifs que ceux que j'avais. Autrement. Et détaillés.
Et on leur donne des exemples, alors l'enfant, il faut qu'il soit
plus... Les enfants sont mieux documentés au point de vue scolaire dans leurs livres que nous l'étions dans le temps. Il y a beaucoup de progrès, je pense que chez vous c'est pareil. Les livres scolaires aujourd'hui de...
Ça dépend, oui. Enfin, ça dépend. Quelques gens disent que les méthodes ont changé, mais pas pour...
C'est pas aussi bénéfique, c'est ce qu'ils veulent dire.
C'est-à-dire que, oui, on fait des expériences, on change de méthode, mais ce n'est pas toujours une réussite.
C'est pas toujours une réussite, c'est ce que je voulais dire. Oui, bénéfique, c'est ça.
Oui, c'est ça. Oui. Dans quelle matière est-ce que vous étiez le plus fort à l'école, monsieur?
Moi?
Oui.
Ah ben c'est dans le calcul, les mathématiques.
Le calcul. Et vous, madame?
Moi, l'histoire.
Ah oui.
C'est pourquoi qu'aujourd'hui, nous aimons très bien l'histoire. Nous aimons beaucoup l'histoire. Oui. L'histoire de France, l'histoire de tous les pays.
Oui. Est-ce que vous avez habituellement sur vous quelque chose pour écrire?
En principe,
moi, j'ai toujours
oui.
Toujours mon stylo.
Oui. Un stylo? Stylo à billes?
Stylo que mon fils m'a offert il y a bien longtemps.
C'est d'ailleurs très utile.
À quatre couleurs.
Ah oui, stylo à billes. Oui. À quatre couleurs.
Oui.
Et vous, madame?
Et moi, stylo à billes.
Avec un carnet ou un bloc?
Ou un bloc, en principe.
Et vous possédez un stylo à plume?
Comment?
À plume? Non, plus.
Vous en avez possédé dans le temps?
Ah oui, j'en ai eu longtemps.
Oui.
Waterman ou autre.
Oui, oui. Oui. Ah oui, mais vous trouvez que ce n'est... Oui.
Mais on s'est très bien mis, on s'est mis rapidement au stylo.
Vous voyez, même, je vais vous dire, puisque vous parliez tout à l'heure de l'école, de ce qu'on apprenait à l'école. Moi, je vois que dans le temps, quand j'allais à l'école, je vais vous dire une chose, qu'on m'apprenait à bien former les lettres, à faire des pleins et des deliers, ben je trouve que ça, vous savez, c'est inutile aujourd'hui.
Ah oui.
C'est inutile aujourd'hui. Mais je ne dis pas qu'il soit inutile de bien former les lettres. Mm-hmm. Mais c'est inutile de s'apesantir sur les pleins et les deliers de l'écriture. Vous savez, mm-hmm. on a autre chose à faire qu'aujourd'hui que passer son temps. Vous comprenez ? Je oui. trouve qu'on a trop de choses à apprendre aujourd'hui, beaucoup plus utiles que celles-là.
Oui.
Mais oui, les enfants, si on veut au primaire que nos enfants commencent à apprendre de l'algèbre un petit peu, il faut pas qu'ils perdent leur temps à apprendre à faire de la calligraphie pour perdre des heures et des journées à savoir faire des pleins et des leviers qui s'utilisent à rien. Si, former les lettres, d'accord. Mais qu'on les forme avec les crayons à billes, sans plein ni levier, ça va très bien. C'est inutile, il faut simplifier toutes les choses qui sont inutiles, je trouve, pour apprendre des choses beaucoup plus utiles qui sont nécessaires à la vie moderne.
Oui. Est-ce qu'il est important, selon vous, d'avoir de l'orthographe? Est-ce qu'il est important, selon vous, d'avoir de l'orthographe?
Ah oui, attendez, je pense à la question que vous posez. Bah, tout de même. Un minimum.
Mm-hmm.
Bon, je ne dis pas qu'on puisse faire des pages d'écriture sans une faute, mais tout de même, il faut que les gens sachent ne commettent très peu de fautes, quoi,
oui.
tout de même.
Bon. Est-ce que vous seriez favorable à une réforme de l'orthographe?
Ah oui. Oui, j'ai lu justement un roman sur une réforme de l'orthographe, j'ai oublié le titre l'autre jour de ce roman. Vous le connaissez peut-être, non? Un roman sur l'orthographe qui existe, non? Oui, moi je l'ai lu l'autre jour, justement.
Ah, oui.
Et ça a été. C'est une réforme qui a été proposée sur l'orthographe par un auteur du Moyen-Âge chez nous.
Ah oui?
Ça existe. Et vous voyez, il en parlait, c'est tombé dans les oubliettes, mais moi j'en suis partisan. Oui. Parce que je vais vous souhaiter un exemple. Citer un exemple, quand vous allez en Espagne, vous voyez pharmacie écrit avec un F, F-A-R-M-A-C-I-E, et quand dans notre pays vous êtes obligé de mettre PH devant qui signifie un F, ben vous savez c'est tout à fait inutile aussi ça.
Ouais.
Moi je suis partisan de la réforme de l'orthographe.
Ouais. Ouais.
Vous savez, malgré que des anciens auteurs des modernes n'en soient pas partisans, c'est pour la simplification aussi.
Oui.
D'accord.
Ah bon. Et pour vous deux maintenant, qui de vous, vous allez trouver ces questions un peu drôles peut-être, mais enfin,
oui.
je dirai après les raisons. Qui de vous, qui de vous écrit habituellement à des amis communs?
Ah, c'est moi, toujours.
Oui, c'est toujours vous.
Oui.
Et à votre famille, qui est
toujours moi.
Oui.
Et j'écris. Ma femme écrit très peu.
Très peu,
oui.
Et à votre famille même?
Même, oui, c'est
oui,
moi qui écris.
Oui. Ah oui, du coup, où est-ce que cela
vient? Non, mais je vais vous dire, tout ça, il n'y a pas de secret, c'est parce que moi, j'ai toujours écrit.
Écrit, alors...
J'ai écrit à l'école, j'ai écrit dans ma profession.
Ah oui.
J'ai écrit tout le temps. J'écris tout le temps.
Oui.
J'écris tout le temps.
Je fais des rapports pour le conseil d'administration, je fais n'importe quoi.
Oui.
Ça m'était. Oui. J'ai fait des rapports, j'ai fait des.
Oui.
Je vous dirais pas que j'ai écrit des discours, mais enfin, j'ai fait des rapports. Quoi.
Alors, c'est vous qui remplissez les papiers administratifs aussi,
sans
doute.
Toujours.
La feuille d'impôt, la feuille
sociale. Je m'y connais sur les feuilles d'impôt.
Oui.
Et je les ai toutes en réserve.
Et est-ce que c'est vous qui possédez la meilleure orthographe?
Oui, certainement.
Et la plus belle écriture.
La plus belle écriture.
Oui. Écoutez,
c'est un peu normal que quelqu'un qui écrit beaucoup,
oui.
automatiquement,
non,
il arrive...
Ce qu'on m'avait dit à l'école, vous voyez, j'avais d'ailleurs un oncle qui était instituteur et directeur de l'école. Mais enfin, mes instituteurs me l'ont dit aussi. Moi, j'ai, dès le début de l'école, j'écrivais bien, parce que j'aimais bien le dessin. Ça aurait été ma seconde carrière aurait été le dessin, parce que j'aimais dessiner. Eh bien déjà, l'écriture, c'est une forme de dessin. Mm-hmm. Alors vous comprenez, sachant, ça, oui. Ayant, j'ai aucun mérite là-dedans, je suis né comme ça.
Ouais.
Enfin, c'est vous savez bien comment.
La personne. Oui.
Comme Mozart qui est né
musicien.
Vous avez
des oui. gens qui sont très instruits oui. et qui écrivent très mal.
Ben oui. Mais ça, c'est un don l'écriture, oui. ça c'est tout. C'est... Oui. Mais enfin, ça s'améliore quand même. Oui. Ça s'améliore, pas quand on apprend aux enfants, les institutrices, à bien former les lettres, eh bien ils doivent bien les former quand même. Oui. Pour un rond, ils ne doivent pas faire un carré, quoi.
Oui, c'est ça. Et vous écrivez beaucoup de lettres?
Assez.
Oui. Par mois, oh,
ouais, principalement oh. depuis quelques années.
Oh non, maintenant j'en écris moins qu'on veut, mais enfin.
Oui, depuis quelques
j'écris
années.
J'écris tout de même, écoutez, non, le jour où je faisais la moyenne. De 200 lettres par an, peut-être.
200 par an,
oui.
C'est beaucoup.
Ouais. Hein? Oui. 150 à 200
est-ce
lettres.
Que vous, est-ce que vous conservez les lettres qu'on vous envoie?
Non. Jamais.
Oh, non,
jamais.
Non.
Ça non, on les jette au fur et à mesure.
Ah oui, oui,
au
pas.
Fur et à mesure.
Ce qu'il y a, enfin, c'est, ça ne vous intéresse peut-être pas, mais je fais souvent, quand je fais un rapport ou que je fais l'onglet, je fais souvent un brouillon.
Un brouillon.
Ah oui, j'en ai.
Je fais un brouillon, d'abord, ça me permet de conserver ce que ma minute, oui. pas, puisque moi je les tape pour en double. Je fais un brouillon au crayon, et puis après, quand je la transmets au propre, je raye les mots inutiles ou je corrige des fautes que j'ai faites ou des omissions que j'ai.
Ah oui, ça c'est pour les lettres officielles, vous faites des brouillons.
Ah oui, sans oui. ça, oui, les lettres ouais. usuelles pour la famille, je ne fais pas de brouillons.
Non. Et vous faites attention aux fautes.
Pour les lettres d'affaires et enfin toutes ces choses-là, en général, oui. je fais un brouillon.
Et vous faites attention aux fautes d'orthographe.
Ah oui, très et attention.
Est-ce que vous relisez évidemment puisque vous faites un brouillon. Oui. Et avec quoi écrivez-vous pour les lettres officielles? Un stylo à billes?
Oui.
Oui. Oui. Et vous n'avez pas de stylo à plume? Mais et quelquefois une machine à écrire, vous avez dit?
Ah non.
Non, vous n'en avez pas.
Machine à écrire.
Non. Et quel type
non, de... quand j'ai besoin de la faire taper, je la fais taper oui. par des gens que je connais, une machine à écrire
oui.
pour jouer.
Ah oui, oui, oui.
Avant, je faisais taper mes lettres, je faisais mes brouillons dans mon service et je la donnais à taper à la dactylo. Là, j'ai plus de dactylo, puis j'ai pris de machine, puisque oui. je l'ai fait à la main.
Ah oui. Et quel type de papier est-ce que vous utilisez pour les lettres? Du papier blanc?
Oui.
Avec des lignes derrière?
Non. Pas des lignes.
Avec quoi est-ce qu'on... Non. Est-ce que vous vous servez quelquefois du papier à carreaux? Je vous pose la question parce que, vous voyez, les types de papier sont différents dans les deux
non,
pays.
Non,
je me demande...
Je vais vous dire... J'aime oui. pas le papier à carreaux pour écrire.
Ah non?
Non, par goût. J'aime pas.
Non, par goût.
Non, vous voyez, je vais vous montrer mon bloc. J'aime oui. bien, en grand ou en petit bloc. Vous voyez, j'ai pas besoin de ligne. Moi, je prends toujours ces. Ça me dégoûte.
Oui. Ah oui, je vois.
Voilà.
Oui.
J'écris droit naturellement. Ou alors, oui. si je la commence un peu penchée,
maintenant. Oui, très bien. Oui. Alors, est-ce qu'il y a des choses qui vous agacent dans la façon de parler des gens que vous connaissez?
Ah, écoutez, je vais vous dire, si, je comprends ce que vous voulez. Et justement, oui. il y a une personne dans mon entourage qui le fait, et j'aime pas ça, mais elle le fait quand même, parce que pour la bonne raison, jamais je le lui ai dit. J'aime pas les gens qui se répètent.
Les
gens qui se répètent, qu'on me répète plusieurs fois. Vous comprenez?
Oui.
On me répète. Bon, on dit une chose une fois.
Oui.
Ben, j'aime pas que deux. On part deux minutes et puis qu'on remette ça. Mm-hmm. J'ai bien compris.
Oui.
Alors, il y a dans ma famille, j'ai une personne qui se répète. Oui. Oui. Elle le fait machinalement. Et ça, on n'aperçoit pas. Mais c'est ça. Ça agace les gens, ça, tout simplement. Et elle le fait sans le vouloir. C'est une manie à elle. Ça m'est égal, moi, je lui dirai pas. Elle oui. gardera sa manie, puis oui. c'est tout.
Et vous, madame?
Moi, yeah. c'est le verbe haut.
C'est le,
ah oui, elle
le
aime,
verbe haut.
Elle aime pas.
J'ai horreur les gens
elle
qui
Elle aime
crient.
Pas les gens qui
les
parlent
gens
fort.
Qui élèvent la voix. Pour moi, c'est une horreur. Je oui. n'aime, instinctivement, je n'aime, je n'aime pas ça. Et quand j'ai quelqu'un ici qui élève la voix, machinalement, je ferme les fenêtres.
Oui.
C'est peut-être une habitude, mais je n'aime pas ça.
Oui, je comprends. Est-ce qu'il faudrait que...